C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Nous sommes jeudi 16 décembre. Bonne journée, bienvenue au 98,5 avec ce matin encore un peu de bruine, même de la bruine verglaçante, intermittente. Par la suite, ça devient de la pluie et ça devrait cesser ce matin. Ça demeure par contre nuageux pour toute la journée et on atteint pratiquement un record, là, le maximum prévu, autour de 13 degrés pour Montréal. Il y a peut-être un peu de brouillard aussi par endroit. En soirée, couvert, 60 % de probabilité d'averse durant la nuit. Et retenons les vents durant la nuit jusqu'à 80 km/h. Et ça, ça peut vouloir dire, malheureusement, encore des pannes d'électricité avec un minimum de 2 degrés. Puis on termine la semaine avec du temps couvert, un peu de pluie, un peu de neige demain matin. Pas de véritable accumulation. Et encore là, assez venteux pour une bonne partie de la journée avec un maximum de 5 degrés. Faisons le point sur le variant, les mesures de santé publique, les directives du gouvernement. Ce qui est clair depuis 48 heures, c'est que le variant, donc, et c'était plus que prévisible, là, se promène au Québec. Et la conclusion de tous les experts, c'est que c'est un variant qui est extrêmement contagieux. La bonne nouvelle, c'est qu'il... En tout cas, je le disais encore ce matin que les effets seraient quand même assez sous contrôle. Et c'est vrai qu'il y a des gens doublement vaccinés qui l'ont eu. Et quand on regarde la vaccination au Québec et l'impact sur les hospitalisations, c'est très clair. Quand vous regardez les chiffres, là, 50 % des gens qui sont hospitalisés à peu près là, sont des non-vaccinés. Ils ne représentent pas 50 % dans la population, mais ils représentent 50 %. Fait qu'on a beau jongler avec tous les chiffres qu'on veut, là, les non-vaccinés sont surreprésentés dans le bilan des gens qui se retrouvent à l'hôpital. Ça, c'est le premier constat. Mais ce variant est quand même, disons, en termes de cas, on le voit là, il y en a, ça explose. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas le même type d'explosion dans les hôpitaux, mais il y a quand même plus de cas. Il y a donc une pression qui s'exerce. Tout ça pour dire que chaque Québécois est assez intelligent pour prendre ses propres décisions. On n'a pas toujours besoin de se faire prendre par la main pour décider ce qu'on fait à Noël, ce qu'on fait au jour de l'an. Je pense qu'on est capable de le faire soi-même. Mais on s'attend à un message clair des autorités, de la santé publique, du gouvernement. Tu sais, on est passé là de rassemblement en disant 25, puis toujours en disant mais ça peut changer. Là, après ça, position officielle 20. Hier, M. Legault jongle encore en disant, ben là, on va peut-être mettre quelques journées seulement à 20. Quand vous regardez autour de vous, c'est assez facile de comprendre que des parties à 20, c'est peut-être pas la meilleure idée. Et Dr. Mylène Drouin, qui est peut-être la directrice de santé publique la plus pointue, là, la plus, disons, directe dans le propos, son message est assez simple. Limiter les contacts. Donc, ça veut dire encore pour Noël d'essayer. Ça veut pas dire, comme l'an passé, de couper là, les rencontres, mais c'est d'essayer d'être possiblement moins nombreux. Puis là, j'ai des cas là, de gens qui se sont regroupés 6-7, pas 12, pas 15, pas 20, 6-7. Puis j'imagine dans des gens là, vaccinés puis qui respectaient les consignes le mieux possible, puis se sont retrouvés avec un cas. On parle dans une école, il y a 20 cas. Le nombre de cas, c'est une chose, mais il y a quand même un effet qui existe pour ce qui est des hôpitaux. Alors, qu'est-ce qu'on regarde ce matin comme effet de ce variant? Premièrement, je vous le disais hier matin, il y a une vague d'annulation chez les restaurateurs. Pour eux autres, c'est pas drôle. L'espoir de profiter de la période des fêtes pour se refaire un peu après une année difficile vient de tomber. Parce que là, les gens n'y vont pas, les parties sont annulées. Puis je vais prendre mon propre exemple, là, on devait avoir un party d'équipe demain, puis on l'a annulé. Deuxième conséquence, les vols, les départs. Les gens quittaient, nombreux, pour différentes destinations. Le fédéral arrive et nous dit nous vous déconseillons fortement de voyager. C'est pas le temps, c'est pas le moment. Et ce que le ministre Jean-Yves Duclos a dit hier, on vous le dit que c'est pas le moment, là, faites-le pas. Puis on vous explique que si vous êtes à l'extérieur, puis que vous êtes malade, que vous avez la COVID, ben vous allez devoir rester longtemps à l'extérieur. Puis ça peut vouloir dire aussi que quand vous allez revenir, on aura ajouté des mesures plus sévères à la frontière. Et je vais citer le ministre qui a dit hier, je sais que les mesures peuvent paraître draconiennes pour plusieurs, mais nous devons éviter à tout prix une surcharge du système hospitalier et donc des travailleurs de la santé. Alors, est-ce qu'il va imposer une quarantaine au retour? C'est pas ce qui a été annoncé hier. Mais dans le fond, ce qu'il nous dit, c'est une technique aussi de communication pour faire peur, c'est on ferme pas les frontières, on vous empêche pas de quitter, mais on vous met ça bien compliqué. Puis l'autre chose, quand vous allez être sur la plage, peut-être que vous allez apprendre que au retour, il y aura des mesures comme une forme de quarantaine ou en tout cas des mesures de contrôle plus strictes. Le message, restez chez vous. Voyagez pas. Alors, l'industrie aérienne est complètement en cote avec ça. Et je voyais les réactions ce matin. C'est finalement une catastrophe parce que là, ça veut dire que les annulations, ça se traduit par des crédits la plupart du temps et pas par des remboursements. Puis là, ça a été obligé d'annuler. Il va y avoir probablement des mises à pied. Alors, c'est un très, très dur coup pour l'industrie. Parlons de la vaccination. Ça aussi, en termes de message, il faudrait que ça soit clair. Là, j'ai l'Ontario qui annonce qu'on va vacciner tous ceux là, qui ont droit, là, 18 ans, là, pour la fameuse troisième dose, dont on dit encore ce matin, d'après des études préliminaires, qu'elle montre son efficacité concernant le nouveau variant. En tout cas, au point de limiter les effets néfaste. Donc, ça veut dire qu'on peut être positif, mais s'en sortir pas si mal. Alors, là, l'Ontario le fait. Le fédéral explique qu'il faudrait qu'on le fasse à travers le Canada. Et Québec, non. Québec garde ça encore, là, 60 ans et plus, puis bon, le fameux délai de 6 mois, puis là, je lis des experts, là. Puis là, il y a beaucoup d'experts, puis oui, peut-être, mais qui disent que ce serait important que Québec accélère la cadence. Là, on a retrouvé un certain nombre de vaccinateurs. Puis moi, je vous le dis, là, dans beaucoup de cas, on n'a pas fait le rappel de gens qui avaient déjà été embauchés dans le passé pour les centres de vaccination. Donc, est-ce que Québec va changer d'idée? Hier, le premier ministre a dit, je peux vous arriver à tout moment puis vous expliquer que votre Noël, ben c'est pas celui qu'on pense. Puis celui qu'on a planifié. Puis les buffets que vous avez fait préparer, ben vous allez en congé une partie parce qu'il va y avoir moins de monde chez vous. C'est ça que ça veut dire. Alors, en résumé, on limite les contacts. On voyage pas. Puis on espère que le message de Québec va être clair. Parce que pensons un peu plus loin. Au-delà des parties, là. T'sais, on a compris, là, les parties, c'est correct. Puis les voyages, ben, c'est pas agréable, mais c'est correct. Mais moi, je mets le projecteur sur janvier avec, évidemment, le réseau de la santé en tête, parce qu'on sait qu'il va y en avoir des rassemblements, là. C'est pas. Puis qu'il va y en avoir des cas, puis qu'il va y en avoir des cas à l'hôpital, puis que ça va augmenter. C'est sûr que ça va arriver. Mais je pense au réseau scolaire. Puis d'autres experts, puis on le mentionnait hier, qui disent comment ça se fait que dans les directives de santé publique, on parle pas plus de l'importance de la ventilation. Comment ça se fait que c'est pas mis de l'avant? Vous retrouvez ça dans la presse ce matin. Puis pas juste dans les écoles, là, l'aération dans les maisons. Ça peut être d'ouvrir une fenêtre légèrement quand il fait froid, mais au moins qu'il y a une circulation d'air à l'intérieur. Alors tu dis, c'est quand même particulier là que c'est pas davantage dans le discours de la santé publique, dans les messages qui sont présentés. Alors, disons que c'est pas mal ça le portrait ce matin. Et juste pour vous donner peut-être une idée, il y a un bon papier de Thomas Gerbet dans sur le site de Radio-Canada, d'un party de Noël en Norvège qui a contaminé 80 des 111 participants. 80 des 111, c'était dans un restaurant à Oslo. Et là, ça montre à quel point ce variant circule puis peut être évidemment dangereux pour les gens. Là, donc, ça veut dire qu'il est extrêmement contagieux. D'ailleurs, je pourrais vous lire des courriels de profs que je reçois là qui comprennent pas comment ça se fait que dans les classes, notamment les détecteurs de CO2, sont pas encore installés. Là, c'est un faible pourcentage. Regardez à Radio-Canada, là, Québec, c'est même pas le nombre de lecteurs comme tel de CO2 qui ont été livrés. On est en retard, puis là, on dit, ben, c'est pas de notre faute. Problème de transport, problème d'approvisionnement. Mais la rentrée scolaire doit faire réfléchir là, pour janvier. Puis les parents là, qui déjà ont eu une année difficile avec grève CPE, les cas de COVID, j'ai une enseignante qui m'écrit, elle en a eu 7 cas dans sa classe, tu sais, bon. C'est le trouble, c'est ça que je veux dire, cette espèce de fardeau là, qui s'ajoute pour les parents. Puis là, le télétravail qui a été réimposé, tu dis, OK, là, il arrive quoi pour la rentrée après le congé des fêtes? Puis hier, le ministre Christian Dubé nous a dit, pour l'instant, là, c'est pas un enjeu, là, il n'y a rien qui va changer, puis c'est une priorité que l'école fonctionne. Parfait, parfait, parfait. Mais là, quand vous voyez ce qui se passe ailleurs, puis le nombre de cas quand même, puis la gestion, on va-tu repousser la date? Je le sais pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'à tout moment, ils peuvent nous arriver avec des directives nouvelles, des consignes, des décisions. Ce sera à suivre. Je reviens sur l'histoire de la petite de Granby. On va essayer de bien comprendre là, la nature du plaidoyer qui a été enregistré hier par l'homme de 32 ans. Mais il y a deux ou trois choses, là. Puis je veux pas entrer dans les détails, disons, horribles, parce que c'est une histoire horrible. Mais c'est un enfant, moi j'ai retenu ça hier dans tout ce qu'on a pu voir, là. C'est un enfant qui a essayé de le dire. C'est un enfant qui, par ses mots d'enfant, mais par ses comportements aussi, de fugue, de voler de la nourriture, est en train de dire aux adultes, là, vous savez pas ce qui m'arrive. Vous êtes pas en mesure de m'aider, il faut que je me débrouille. Pourquoi on l'a attachée comme ça? C'est parce qu'elle se sauvait. Et pourquoi elle se sauvait? C'est qu'elle était victime de sévices. D'un père tapis qui a initié. C'est lui qui l'a attachée au début. C'est ce que on a pu démontrer. Et par une belle-mère qui avait l'air de celle qui contrôlait les opérations. C'est une histoire d'horreur. Puis malheureusement, c'est un enfant qu'on a échappé. Puis c'est d'une tristesse. On en a parlé la semaine dernière avec Régine Laurent. Ça a donné le coup d'envoi à la commission. Mais ça veut dire que les adultes ont cette responsabilité-là à l'égard des enfants. Puis pas juste la DPJ, là. Les adultes qui sont autour. C'est pas normal que cet enfant-là ait subi tout ça. Puis ce qui arrache le cœur, c'est qu'elle a tenté de le dire à quelques reprises. Parlons maintenant de Julien Lacroix, l'humoriste. C'est dans Le Devoir ce matin. Une longue entrevue qu'il a accordée. Je vais vous en faire entendre un extrait. Alors, c'est un humoriste, vous le savez, qui a été emporté dans la vague MeToo. Il y a eu dénonciation de plusieurs femmes qui lui ont reproché, évidemment, des gestes qu'il a posés. C'était en juillet 2020. Et à ce moment-là, donc, il avait fait l'objet d'un reportage aussi dans Le Devoir, alors qu'on parle d'agression sexuelle, de gestes non désirés, posés. Alors, plusieurs femmes comme ça qui ont parlé et il s'est éclipsé. Et là, il revient dans une entrevue. Je fais entendre un extrait où il raconte quand même ce qu'il a vécu suite à cette dénonciation.
J'ai été quand même pas mal humilié, puis j'ai honte, mais j'ai envie de recommencer à marcher la tête haute. Puis pourquoi j'ai attendu, c'est parce que je voulais vraiment être sûr de bien faire les choses. Tout le long du processus, je me posais la question, j'ai posé la question à mon entourage, aux spécialistes avec qui j'ai fait ça, puis c'était vraiment, il n'y a pas de mode d'emploi, c'est une révolution, veut, veut pas, puis on apprend un peu tout ce qui se passe sur le coup, puis c'est ça, je voulais vraiment bien faire les choses, j'ai attendu d'être assez outillé, puis j'avoue que vous êtes pas les premiers, il y a d'autres mondes qui m'avaient approché depuis un an et demi pour faire des entrevues ou des trucs comme ça, puis je me sentais pas prêt, je me sentais pas assez solide, puis là je le sens, puis aussi mon entourage, ma famille, on le sait, ça va avoir des répercussions, ça va ramener une autre vague de haine et peu importe. Fait que je voulais vraiment être sûr que tout le monde soit prêt autour de moi puis qu'on y aille ensemble.
Bon, vous lirez dans Le Devoir ce matin cet article d'Amélie Pineda qui, en gros, aussi parlait aux victimes. C'est assez partagé comme réaction. Les experts témoignent également. Bon, il avoue dans l'entrevue qu'il avait des problèmes d'alcool, de consommation de drogue aussi, qui est allé en thérapie, qui a fait un effort. Puis quand ça arrive, là, tu dis, OK, c'est une opération ficelée pour tenter un retour, là, puis d'être présentable. Ou c'est quelqu'un qui, de bonne foi, décide de dire, bon, ben là, ça fait un bout là, que j'ai tenté de régler mes problèmes, puis j'étais dans le déni, mais là, je fais face à la réalité. Puis la troisième question, c'est pendant combien de temps t'es au purgatoire? Et alors lui, à beaucoup de questions, il répond, ben, je veux pas le faire à la caméra, je veux le faire avec les femmes qui ont porté plainte contre moi. Alors, dans Le Devoir ce matin, vous lirez ça. Pour ce qui est de l'inflation, on a vu les chiffres hier, puis on en parle beaucoup, c'est une augmentation de la facture quand même importante, là. L'alimentation, on l'a vu, mais aussi pour ce qui est du logement, pour ce qui est des meubles. Je regardais le bois d'œuvre ce matin, les prix, c'est exponentiel comme croissance. Alors, c'est clair que malgré que on est dans un contexte de relance économique, disons que tout coûte cher. Puis on le voit là, que c'est pas dans notre tête. Puis le chiffre officiel de l'inflation, ça montre une chose. Mais quand tu commences à descendre et à gratter, et là, ce qui, évidemment, se pointe à l'horizon, c'est une augmentation, probablement l'an prochain, graduelle, des taux d'intérêt. Ça complète notre revue de presse pour ce matin.
L'essentiel de Paul Arcan. L'essentiel de Paul Arcan.
La Santé publique de Montréal a fait le point hier sur la progression du variant Omicron. Et comme on le voit partout dans le monde, c'est une progression rapide. Il y a quoi, 95 cas qui ont été détectés, peut-être même un peu plus. Et le message est assez clair, c'est-à-dire de limiter les contacts. On va parler dans quelques instants avec le ministre Leblanc du fédéral sur la très forte suggestion de ne pas voyager. Mais d'abord, je vais faire le point un peu sur le dépistage, sur la vaccination, sur l'impact de ce variant sur le réseau de la santé avec Mme Sonia Bélanger, qui est la PDG du CIUS Centre Sud de l'île de Montréal. Mme Bélanger, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
Quelques questions, là, je dirais, peut-être de statistiques, là. Actuellement, en termes de variants, de cas là, qui ont été détectés, on parle de 95. Sans, est-ce que vous sentez donc qu'il y a comme, à travers les dépistages, là, une tendance assez rapide et de voir le nombre de cas augmenter?
Bien, en fait, je peux vous dire que les médecins, les scientifiques observent là, l'augmentation actuellement à chaque jour. Et puis nous, on commence à le ressentir naturellement dans le réseau de la santé, dans les hôpitaux en particulier. Là, il y a 115 patients hospitalisés actuellement dans les hôpitaux de Montréal. Alors, donc c'est à chaque jour là une augmentation. Alors, comprenez qu'on a l'impression de rejouer là dans le même film. Là.
Est-ce que vous avez des éclosions dans le réseau? On a vu l'Hôtel Dieu de Montréal où on parle au bloc opératoire d'un certain nombre de cas.
Oui, il y a une éclosion actuellement à l'hôpital Notre-Dame, au bloc opératoire à l'hôpital Notre-Dame. Il y a quelques éclosions dans des milieux de soins aussi. Par contre, ce sont des éclosions qui concernent un petit nombre de personnes et qui sont sous contrôle.
Si on reste dans le réseau de la santé, la période de décembre, janvier, c'est une période qui est très, disons, dure pour les urgences, les vacances, puis bon, on voit toujours des taux d'occupation très élevés. Actuellement, à Montréal, on joue dans quoi, là, pour ce qui est de l'occupation des salles d'urgence?
Les salles d'urgence, bon, ce matin, on était en moyenne là, à 125% de taux d'occupation. Donc, on le voit, là, il y a un achalandage. C'est très variable là, d'une journée à l'autre. Mais on le sent, là, la période hivernale se fait sentir en plus là, de la situation épidémiologique, bien sûr. Mais on peut dire que nos salles d'urgence là, sont très, très sollicitées.
OK. Là, ça m'amène à vous parler des cliniques de dépistage. Là. Est-ce qu'il vous manque encore du personnel? Comment ça se passe? Le temps d'attente pour obtenir un résultat, c'est quoi le portrait?
Ben, cette semaine, on a senti là, une demande accrue là, dans nos centres de dépistage, notamment à l'Hôtel-Dieu de Montréal, qui, pour lequel on offre du 100 rendez-vous. Et puis, on a vu lundi là, des durées d'attente variant là, de 2 à 3 heures. On s'est aperçu de quelque chose, M. Arcand, c'est qu'il y a des gens qui se présentent dans les centres de dépistage en prévision de festivités. OK? Donc, ils ne sont pas symptomatiques, mais ils viennent passer un test parce qu'ils ont un party dans 2 jours, 3 jours, bon, etc. Ils veulent se sécuriser les gens avec qui ils vont festoyer. Mais c'est pas une bonne idée. Alors, il faut vraiment aller se faire dépister quand on a des symptômes ou si on a été en contact avec des personnes, des cas positifs. C'est les deux seuls critères pour aller se faire dépister.
OK, mais quand je regarde le nombre de cas qui augmente, là, 2000, 2500, peut-être 3000, aujourd'hui on verra, là, mais votre capacité de dépister puis donc de donner des résultats rapidement est quand même mise à l'épreuve.
Oui, effectivement. Puis je vous dirais aussi, mais la capacité d'avoir le personnel en quantité suffisante aussi. Il ne faut pas oublier qu'il faut qu'on accélère la vaccination. En même temps, il y a une demande d'augmenter sur le dépistage. Puis il n'y a plus, ben, dans les établissements de santé, dans les hôpitaux, on est dans des périodes de l'année où on a le plus besoin de notre personnel. On a fait appel, d'ailleurs, là, à la population, à la fameuse liste « Je contribue ». Là. Alors, et on espère que des gens vont vouloir encore venir contribuer, là, comme ils l'ont fait l'année dernière pour la vaccination. Alors, c'est un appel là, à ceux qui veulent venir travailler dans le réseau durant la période des fêtes.
Il vous manque combien de vaccinateurs? Il vous manque combien de vaccinateurs à Montréal?
Ben, c'est difficile à dire, ça dépend d'un site à l'autre. Moi, je peux vous donner l'exemple, là, j'ai le Palais des Congrès, et puis j'ai plusieurs cliniques de vaccination, puis il me manque environ 100 personnes. Ça, c'est juste pour mon établissement.
Puis vous êtes passé par la liste de rappel. Moi, j'ai des gens qui me disent avoir travaillé, puis qui n'ont pas été appelés, puis qui comprennent pas pourquoi.
De façon générale, je peux vous dire que notre liste de rappel, là, on est vraiment là très, très présent à appeler les gens. Puis comme je vous dis, là, on fait même appel actuellement aux personnes qui sont disponibles et qui veulent se revenir dans le réseau. Alors, avec la liste, je contribue. Et ça peut être aussi des personnes en soutien clérical, administratif, des secrétaires, des adjointes administratives, des gens qui sont là pour gérer le trafic, les trajectoires. Donc, des soignants, mais aussi du personnel qui peuvent venir aider.
OK. L'autre question, est-ce que vous avez suffisamment de vaccins? Là, je comprends qu'il vous manque de personnel, mais si Québec décidait d'élargir pour la troisième dose, donc on sait que pour les gens de 60 ans, c'est au mois de janvier, il y a le délai de 6 mois. Êtes-vous capable de prendre plus de gens qui pourraient se faire vacciner?
Oui, ben la prévision pour le Québec, là, si je ne me trompe pas, c'est de passer à 600 000 vaccins par semaine. Actuellement, on a une capacité pour 300 000. Donc, juste pour vous montrer, là, on devra monter notre capacité au mois de janvier ou dès qu'on va passer à la population générale, là, dès qu'on va avoir le go du ministère, il va falloir qu'on double notre capacité de vaccination. Les 60 ans et plus sont annoncés, mais bon, j'imagine que très bientôt, on aura aussi de l'information pour la population générale.
OK. Pour les tests rapides, est-ce que c'est vous qui êtes en charge de la distribution?
Chaque CIUS est en charge de la distribution des tests rapides pour les CPE de leur territoire, les écoles. Et on va recevoir plusieurs fournitures, là, plusieurs tests rapides en prévision de la période des fêtes. Mais oui, chaque CIUS doit fournir les tests rapides sur son territoire.
Est-ce que tous les tests rapides qui étaient en votre possession ont été distribués, CPE, école, par exemple?
Ben, je peux vous parler pour mon établissement.
Oui, oui.
Là, nous, on a vraiment distribué dans toutes les écoles de notre territoire les tests rapides, les CPE aussi, c'est fait. Alors, j'imagine que c'est la même chose là, pour mes collègues, là, pour les autres CIUS.
Et pour les pharmacies, est-ce que c'est vous qui allez faire la distribution aussi?
Non, les pharmacies, ils ont leur propre processus, là, leur propre regroupement, si je peux dire. Et puis, bien sûr, on collabore avec eux là, au besoin, mais ils font eux-mêmes leur propre commande là, directement au ministère.
Ce que vous nous dites, dans le fond, ce matin, il vous manque de personnel. Deuxièmement, vous dites aux gens, on va pas se faire tester parce qu'on a un party dans deux jours. On se fait tester parce qu'on a été en contact ou encore on a des symptômes. Puis aux gens de l'extérieur de Montréal, ben faites-vous donc tester dans votre coin.
Ben oui, je pense que c'est un bon résumé. C'est un bon résumé. Puis effectivement, parce que là aussi, je vous mentionnais, là, 20% des personnes qui se sont présentées à l'Hôtel-Dieu en début de semaine venaient de l'extérieur de Montréal. Alors, c'est pas qu'on n'aime pas les gens, mais moi, j'invite vraiment les personnes à aller dans leur quartier là, le plus près possible de leur domicile parce qu'on n'aura pas la capacité si tout le monde afflue à l'Hôtel-Dieu, là, c'est bien clair.
Merci, Mme Bélanger. Bonne journée.
Merci. Au revoir. Bonne journée à vous.
Sonia Bélanger, la PDG du CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal.
L'essentiel de Paul Arcand.
Alors, le gouvernement fédéral déconseille fortement les voyages qu'on qualifie de non essentiels, donc des voyages pour le plaisir, les vacances, des voyages touristiques à l'étranger, et laisse entrevoir même peut-être un renforcement des mesures au retour au Canada. Je fais le point avec le ministre Dominique Leblanc, qui est ministre des Affaires intergouvernementales de l'Infrastructure et des Collectivités. Monsieur Leblanc, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
D'abord, je veux juste comprendre un peu les modalités de ce que votre gouvernement a annoncé hier. Ce que vous dites aux Canadiens, c'est que c'est pas le temps de voyager et que si, par exemple, ils sont à l'étranger, les règles pourraient changer pour leur retour au Canada.
Ben absolument. Il y a toujours, on a dit ça depuis le début de la pandémie, on a vu des exemples difficile dans les dernières vagues de la pandémie où les règles ont changé pendant que les Canadiens étaient à l'extérieur du pays. Ça pourrait arriver au cours des prochains jours ou des prochaines semaines. Ça, c'est évident. L'autre chose, c'est que si les gens sont à l'extérieur du Canada, par exemple, puis ils ont un test positif pour le COVID avant d'embarquer sur l'avion pour revenir au Canada, comme vous savez, il faut avoir un test négatif à l'intérieur de 72 heures. Mais si jamais quelqu'un pogne la COVID pendant qu'ils sont à l'extérieur, mais ils n'auront pas le droit d'embarquer sur l'avion pour revenir, alors ils pourront se trouver dans une situation où ils sont hospitalisés à l'extérieur du Canada ou malades à l'extérieur du Canada avec pas de façon facile à rentrer au pays.
Mais une fois de retour, dans l'hypothèse où le test est positif, en fait positif dans le sens qu'il est négatif, là, donc ils n'ont pas la COVID,
oui.
Quand ils arrivent au Canada, on les reteste.
Ben c'est ça. Là, on parle des gens évidemment doublement vaccinés, parce oui. qu'il faut être doublement vacciné aussi pour embarquer sur l'avion, mais au retour au Canada, mon collègue le ministre Duclos a indiqué que on va appliquer des mesures de dépistage à l'arrivée aux frontières. Et évidemment, il y a d'autres mesures qui pourront s'appliquer. On verra l'évolution au cours des prochains jours et des prochaines semaines.
Mais
pour nous,
il y a deux questions, M. Leblanc, là-dessus. La première, pourquoi tester quand je viens de me faire tester avant de prendre l'avion?
Pourquoi? Parce qu'un test donne le statut de votre situation au moment où le test a été pris. Les médecins, c'est possible, deux jours avant votre retour au Canada, vous étiez négatif, et une journée après votre arrivée, la COVID apparaît dans un test. Alors, les tests ne sont pas aptes pour une période illimitée. 72 heures a été jugé par les médecins comme important avant de retourner, d'embarquer sur un avion. Mais un test à l'arrivée aussi donne d'ailleurs aux scientifiques, parce qu'ils peuvent faire des séquençages génétiques de ces échantillons, la chance de voir s'il y a l'entrée des variants, par exemple Omicron ou d'autres. Le problème, c'est que si on fait un test dans un centre de testing à Cancun. Le gouvernement canadien n'a pas accès à ce test-là pour faire un séquençage, pour voir s'il y a bel et bien tel variant ou un autre variant qui arrive au Canada. Alors, en termes de recherche scientifique et de contrôle de la maladie, un test à l'arrivée au Canada est aussi utile pour les autorités sanitaires.
Mais êtes-vous en mesure de nous dire si les infrastructures vont être capables de tester tous les voyageurs canadiens qui vont arriver?
Ben, ce sera un défi, il n'y a pas de doute. On a discuté longuement au Conseil des ministres, au comité du COVID du Conseil des ministres que je préside. C'est une question importante. Pour le moment, on croit qu'on peut tester les arrivées internationales aux aéroports. Et là, on parle des pays autres que les États-Unis. Si on décide dans les prochains jours de vraiment élargir le dépistage, par exemple, aux frontières terrestres, aux vols en provenance directement des États-Unis, on peut avoir 100, 125 arrivées par 125 000 arrivées par jour pendant certains jours. Alors, on arrive à une période, évidemment, où les gens ont planifié des voyages, on comprend ça. Alors, nous sommes en train de voir avec les scientifiques la meilleure façon, est-ce que c'est des tests aléatoires, mais suffisamment robustes pour donner aux scientifiques un échantillon valable? Ça, c'est des questions scientifiques. Moi, je suis avocat de profession.
Non, je comprends.
Bon dans les sciences. Mais c'est exactement, M. Arcand, le genre de questions qu'on se pose.
Mais actuellement, on a des tests aléatoires. Actuellement, les gens qui arrivent, il y a une formule aléatoire, puis les gens sont testés, puis on attend le résultat. Mais je vous soumets parce que on sait que le test est pas requis pour l'instant, en tout cas quand on arrive des États-Unis.
C'est ça.
Mais là, il y a des gens qui vont dire, parfait, on va prendre l'avion, on va aller à, je sais pas moi, au Mexique, on va rentrer par New York, puis par Burlington, puis on va prendre la frontière terrestre.
Absolument. Ou ils vont aller à Fort Lauderdale et non pas à Cancun. Absolument. C'est le genre de décision qu'on a vu dans le passé. Nous essayons de mettre en place des couches de protection, des mesures accrues. Conscient, évidemment, comme vous dites, qu'il y a des gens, moi, je connais de ma propre parenté au Nouveau-Brunswick qui avait l'intention de revenir de la Floride pour le temps des fêtes, puis retourner en janvier. Est-ce qu'ils vont atterrir à Bangor, Maine, puis conduire au Nouveau-Brunswick? C'est exactement le genre de question. Et pour nous, l'importance, c'est d'obliger, par exemple, la vaccination. Ça demeure pour nous l'outil le plus important. Une des discussions avec les premiers ministres des provinces, y compris M. Legault, mardi soir, c'était comment on peut aider les provinces à mieux déployer ou déployer plus vite les doses de rappel, parce que ça demeure, selon les scientifiques, une des meilleures façons de se protéger contre l'Omicron. Alors, toutes ces mesures sont vraiment en train d'être concrétisées, mais le message de hier, comme vous avez dit au début, c'est que si on décide de quitter le Canada pour un voyage non essentiel, une vacance, il se peut que les règles changent, il se peut que les vols soient annulés, il se peut que si vous êtes tombé malade dans un autre pays, ben vous serez évidemment pas permis d'embarquer sur l'avion.
Est-ce que l'option d'une quarantaine automatique à l'arrivée est toujours parmi les scénarios possibles?
Oui, toutes les scénarios, toutes les options sont théoriquement sur la table. On a discuté plusieurs mesures avec les premiers ministres des provinces mardi soir. Pour le moment, c'est pas l'option privilégiée. Je pense qu'il faut voir au cours des prochains jours, la semaine prochaine, le nombre de cas dans chaque juridiction et qu'est-ce que ça veut dire pour le système de santé. C'est pour nous et pour les premiers ministres des provinces la question essentielle. On ne veut pas un scénario parfait où le nombre de cas augmente d'une façon massive à cause en grande partie de l'Omicron. Et en même temps, on a des travailleurs de santé qui testent positifs et qui sont obligés de s'isoler et de ne pas travailler. On peut imaginer un scénario inquiétant où il y a déjà une pénurie de ces professionnels de santé-là dans le système de santé publique. Alors, si les gens commencent à être obligés de s'isoler parce qu'ils ont testé positif ou ou quelqu'un dans leur entourage a testé positif, on peut imaginer une pression importante sur le réseau de santé. Alors, et si c'est le cas, ben on va continuellement revoir des mesures. L'autre chose, M. Arcan, je pense qui est important, c'est que dans le passé, très peu de cas de COVID, le variant Delta, par exemple, ont été liés à des voyages à l'international. Malheureusement, le variant Omicron circule déjà dans les collectivités. Alors, il y a une transmission communautaire qui se fait déjà. Alors, les frontières, évidemment, il faut être vigilant, il faut être très prudent, mais ça prend une série de mesures et à l'intérieur des juridictions provinciales, les mesures de santé publique,
ouais.
Et aussi pour nous aux frontières. Mais
je serais tenté
de fermer les frontières complètement, mais Omicron circule déjà dans les collectivités. Alors, c'est un défi de taille pour tous les gouvernements.
Je serais tenté de dire que vous êtes plus vite cette fois-ci que lors de la première vague.
Ben écoutez, on a vu ça. Moi, j'ai dit à mes collègues, ça me rappelle entre Noël et le jour de l'an l'année passée, on avait, avec les compagnies aériennes, on avait annulé les vols aux destinations, surtout au sud, précisément parce qu'on voyait une frustration du public, que les gens étaient vraiment en train de suivre toutes les mesures applicables et appropriées, puis de voir des images des gens dans les hôtels en République dominicaine où ça a vraiment enragé la population. On a vu ça et les premiers ministres des provinces ont été très vite à nous demander de fermer les frontières. Alors oui, on a agi vite, puis le premier ministre Trudeau leur a dit ça dans notre appel conférence mardi soir, qu'on voulait agir vite précisément pour minimiser la pression aux frontières internationales, pour qu'on puisse focusser ensemble sur les enjeux dans les collectivités et dans les communautés où Omicron, malheureusement, circule.
OK, j'ai une dernière question à vous poser. Concernant les vaccins, concernant surtout les tests rapides, il y a une demande qui a été faite. On dit qu'il y a une bonne collaboration avec le gouvernement fédéral. Mais dans ce qui est à venir à travers le Canada, est-ce que le Québec reçoit le pourcentage qui est l'équivalent de sa population? On va recevoir combien de tests rapides?
Ben, oui, les provinces vont recevoir les tests qu'ils demandent. Alors, c'est aux provinces de décider. Il y a certaines provinces, en Nouvelle-Écosse, on les a donnés tout le long de l'été dans les commissions d'alcool, dans les SAQ, par exemple.
Au Québec, on a été moins vite, là, c'est ça que vous me dites. Là.
Des provinces ont décidé de les déployer différemment. Qu'est-ce qui est important pour la population à comprendre, c'est qu'on a déjà livré comme gouvernement fédéral 85 millions de tests rapides vers les provinces, en proportion, comme vous dites, selon leur population. Il y a 35 millions de tests rapides additionnels qui vont être acheminés vers les provinces dans le mois de décembre, au cours des deux prochaines semaines, et beaucoup sont déjà en cours pour les ministères de la Santé des provinces. Et nous avons commandé des centaines de millions à partir de janvier. Alors, nous croyons qu'on aura suffisamment de tests rapides pour que le public puisse avoir accès et on encourage les provinces à vraiment les déployer. Et c'est la même chose pour les doses de vaccins de rappel. Nous avons 16 millions de doses de vaccins de rappel déjà dans les congélateurs à Ottawa et dans les provinces. Nous avons des millions additionnels qui vont arriver en janvier et en février. Alors, encore là, si les provinces décident de massivement augmenter le déploiement des vaccins, des doses de rappel, nous aurons suffisamment de stock à Ottawa.
Oui, mais M. Leblanc, pour conclure, là, je ne veux pas partir une bataille fédérale-provinciale ce matin, là, mais ce que vous êtes en train de nous dire, nous, on a les vaccins. Si la province de Québec veut accélérer, devancer la vaccination, c'est dans sa cour. On a les tests rapides. C'est au Québec de décider à quel moment ils sortent des entrepôts puis ils distribuent. Nous, on fournit notre partie de l'entente. Les tests, puis les vaccins, puis le déploiement, ben ça regarde Québec.
Ben, c'est ça. C'est pas un conflit fédéral-provincial. Ça a toujours été le cas. Les provinces ont proprement la juridiction et l'infrastructure pour déployer les vaccins, pour les acheminer vers les patients. La même chose pour les tests rapides. Nous, le travail le plus important qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller acheter, procurer tout cet équipement-là et ces vaccins-là et les acheminer vers les provinces au rythme que les provinces nous demandent.
Okay.
Mais l'importance pour nous, c'est d'avoir un vue d'œil dans le congélateur pour s'assurer qu'ils sont bel et bien là.
Merci, M. Leblanc. Bonne journée.
Merci. Au revoir. C'est moi qui vous remercie. Joyeux Noël.
À vous aussi. Dominique Leblanc est un des responsables du comité COVID à Ottawa.
L'essentiel de Paul Arcand. L'essentiel de Paul Arcand.
Maintenant, en termes de voyage, l'impact est clair. Les gens ne réservent plus. Ça fait déjà un petit bout de temps. Mais surtout, depuis l'annonce du fédéral, c'est la vague des annulations. Moscou Côté, le président de l'Association des agents de voyage du Québec. Monsieur Côté, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Bon, ben, c'est assez clair là, que depuis 48 heures, 72 heures, là, les gens annulent.
Oui, depuis hier, surtout, depuis l'annonce là, du niveau 3. Maintenant, bon, j'écoutais votre entrevue avec le ministre précédemment, là. Écoutez, il l'a bien dit. La majorité des Canadiens ne voyagent pas. La majorité des Canadiens sont contre les gens qui voyagent. Donc, c'est facile de tirer sur les Canadiens qui voyagent. Mais au niveau, là, il faut être honnête. Là, dans leur mise à jour quotidienne là, sur le COVID-19, en date du 14, là, du 14 décembre, là, ils nous disent que 80.4% des cas des hôpitaux, c'est des gens qui sont non vaccinés. On comprend, ils ont la liberté de ne pas se faire vacciner, ces gens-là, mais on ne peut pas restreindre la liberté des Canadiens vaccinés, parce qu'on est obligé d'être vacciné pour voyager, pour permettre aux non-vaccinés d'exprimer leur propre liberté de ne pas vouloir se faire vacciner.
Non, mais j'ajouterais une chose. D'abord, il y a des contraintes qui existent déjà, là. C'est-à-dire que vous le dites, un, il faut être doublement vacciné pour voyager. Deux, avant de quitter pour revenir au Canada, il y a déjà un test qui est demandé. Et là, de dire, on va vous en demander un autre de façon aléatoire, puis peut-être obligatoire, puis ça se peut qu'une fois...
L'aléatoire était déjà là.
Oui, je sais.
Mais là, ils veulent le mettre obligatoire. Ils n'ont pas les capacités pour faire ça. Le ministre Duclos s'est avancé. Il a dit, on va faire des tests obligatoires dans les aéroports. Les aéroports, ils ont carrément dit, on n'a pas la logistique pour faire ça. On n'a pas l'emplacement. On n'a pas les ressources. Et là, ben là, ils s'en vont mettre le niveau 3 parce que ça paraît bien. Sauf que si on voudrait vraiment stopper la COVID, premièrement, s'il y en avait qui arrivaient des vols, le ministre Leblanc lui-même semblait dire qu'il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, mais ils interdisent pas les vols des voyageurs étrangers. Alors, présentement, il y a un foyer Omicron à Londres, en Angleterre. Mais on n'interdit pas quelqu'un de partir de Londres, passer son test 72 heures avant, prendre l'avion, s'en venir au Québec, passer Noël avec 20 de sa famille. Ça n'a aucun bon sens.
Okay.
Le nombre de cas, le pourcentage, c'est 0,14% des gens qui arrivaient, qui étaient testés aléatoirement. Ça inclut aussi ceux qui ont des symptômes, là, qui font de la fièvre, qui ont les yeux rouges ou qui coulent du nez. On les testait. Ça veut dire que hier, s'il y a eu 20 000 voyageurs qui sont rentrés à Dorval, il y a 25 personnes qui sont arrivées potentiellement avec le COVID. Quand on sait qu'il y a 2300 cas de transmission communautaire, on ne ferme pas le centre Bell, on ne ferme pas les écoles, M. Arquin, on ne ferme pas les gyms.
Non, mais vous suivez.
Ces voyageurs, c'est ça.
C'est quoi l'impact, selon vous, là, de cette vague d'annulation? Évidemment, pour les agents de voyage, les transporteurs, pour l'industrie en général. Moi, j'ai des gens que, tu sais, déjà, il y a eu des coups durs. Je pense à Air Transat en particulier. Là. Selon vous, selon toujours la durée là, de ces contraintes, ça peut vouloir dire quoi?
Ça fait 22 mois qu'on arrache, là, en bon français. Et là, ça, c'est un coup dur additionnel. Ça fait déjà deux semaines qu'il n'y a pas beaucoup de réservations à cause qu'ils ont dit que potentiellement les conditions allaient changer, les tests allaient revenir à l'aéroport, ces trucs-là. Mais là, depuis l'annonce d'hier après-midi, le nombre d'annulations est parti en hausse, là.
OK. Et ça veut dire quoi? Ça dépend des cas, là, mais j'imagine que c'est un crédit qui est accordé là, pour les gens qui annulent?
Bien, d'office, les gens ont droit à rien, hein, parce que ils savaient quand ils ont acheté qu'il y avait un COVID, donc c'était une condition existante. Là. Maintenant, il y avait les forfaitistes vendaient une option qu'on pouvait se procurer autour de 100$ par personne qui donnait le droit d'annuler jusqu'à quelques jours du départ pour un crédit. Donc, les gens qui ont pris cette option-là vont pouvoir, s'ils désirent annuler, obtenir un crédit.
Parfait. M. Côté, on va voir combien de temps ça va durer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée. Moscou Côté, le président de l'Association des agents de voyage du Québec.
L'essentiel de Paul Arcand.
Ben, on va parler justement de ce variant qui change la donne, qui est apparu comme ça dans les dernières semaines. On dit, bon, un autre variant, on connaissait le Delta. Et on a appris à le connaître. On sait pas tout du variant encore, mais on découvre d'abord qu'il est contagieux, qu'il se propage rapidement. Je vais faire le point avec le docteur Gaston Dessert, qui est de l'Institut national de santé publique du Québec. Docteur Dessert, bonjour.
Bonjour.
Deux ou trois questions sur le variant, justement. Là, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites. On sait qu'il voyage rapidement. Est-ce qu'on a toujours raison de penser que il est peut-être moins dommageable qu'on le croyait au départ?
En fait, je pense qu'actuellement, il y a effectivement des données là qui suggèrent que le variant Delta, Omicron, aurait, ce qu'on appelle une virulence, donc la capacité à causer des maladies graves comme des qui mènent à l'hospitalisation, qui soit moins élevée que le variant Delta. Donc ça, dans un sens, c'est un virus qui est moins dommageable, mais quand on dit moins dommageable, ça veut pas dire qu'il y a personne qui a des maladies graves, mais qu'il y en aurait moins.
Okay.
Mais le problème de ce variant-là, c'est qu'il est tellement contagieux que la vitesse à laquelle il se déploie dans les différentes populations où il a pris pied fait que le nombre de cas augmente beaucoup, et même si la proportion qui aboutit à l'hôpital est plus faible, ça fait quand même des chiffres là, qui deviennent facilement là capables de déborder les capacités hospitalières. Alors, je pense que, on commence à avoir des raisons. Là. Je voyais là, quelque chose qui est sorti hier qui suggérait que le virus se multiplie beaucoup plus vite au niveau des voies supérieures, de respiratoires supérieures, mais qui irait moins dans les poumons en profondeur, qui fait que, donc, on aurait peut-être moins de maladies graves. Mais encore une fois, moins, c'est pas qu'il n'y en a pas, là.
Mmh. Je vous demanderai pas de prédire la durée de l'existence de ce variant, mais avez-vous l'impression que c'est le genre de variant qui va peut-être être dans le décor puis qui va être remplacé par un autre? C'est un variant qui peut durer longtemps. Est-ce que les auditeurs veulent savoir, là, selon vous, est-ce qu'on en a pour longtemps à revivre dans le même film des dernières années, enfin, des derniers mois, je devrais dire, là?
Ben, en fait, il y a deux choses, parce que le film, ça s'appelle Coronavirus, le variant, ben, c'est l'épisode actuel, le variant Omicron, là. Donc, le coronavirus, lui, va rester autour de nous, là, pour les années à venir, ça va pas disparaître. Maintenant, est-ce qu'il y aura un autre variant qui viendra supplanter l'Omicron un peu plus tard, vraisemblablement?
Là, je vais vous poser une question parce que je l'entends de mes auditeurs. Puis, depuis le début de cette pandémie, on rappelle les clés. C'est évidemment le dépistage, le respect des règles, puis la vaccination. Je vous donne l'exemple, la vaccination. Au Québec, on a opté pour l'intervalle de 6 mois, ce qui fait que les gens de 60 ans vont pouvoir recevoir cette troisième dose, là, de façon générale, à partir du mois de janvier. Là, on regarde en Ontario, puis dans d'autres pays, c'est 18 ans, parce qu'on se dit, ça prend cette troisième dose pour combattre efficacement ou plus efficacement le nouveau variant. Pourquoi il y a une différence?
Bon, je pense qu'il y a deux choses qui sont importantes, là. Actuellement, la capacité à vacciner qu'on a au Québec, le ministre puis M. Paré là, en parlait mardi, il y a une capacité de vacciner à peu près 300 000 personnes par semaine. Et avec ça, on ne réussit pas à vacciner là, toutes les personnes déjà identifiées comme devant recevoir leur troisième dose. Et c'est pour ça que cette semaine, le ministre faisait un appel pour dire on a besoin de vaccinateurs, vaccinatrices, parce que il faut augmenter notre capacité à vacciner, la doubler, puis évidemment, si on est capable de la tripler, parce que même parmi les gens de 70 ans et plus, là, qui sont identifiés depuis déjà plusieurs semaines comme devant recevoir leur troisième dose, on en avait, à peu près 250 000 là, qui avaient été vaccinés sur le 1,2 million, là, je pense, à peu près, là, qui pourraient recevoir une troisième dose. Donc, actuellement, on pourrait bien dire, on prend les 18 ans et plus, puis on va leur donner, mais il faut commencer par les gens pour qui, s'ils font une infection malgré tout, les conséquences vont être les plus graves, là.
Mais en même temps, s'il y a des gens qui se présentent pas, pourquoi empêcher les autres de se faire vacciner?
Ah, mais je pense que, en tout cas, à ma connaissance, actuellement, c'est pas que les gens se présentent pas, c'est que là, les rendez-vous sont pleins pour ceux qui veulent, qui sont déjà désignés par les comme groupe prioritaire.
OK. L'autre question, puis c'est encore là, on est dans la santé publique. L'Ontario vient d'annoncer que, par exemple, dans les amphithéâtres, on va réduire de 50 %. Puis, l'image que les gens ont, là, c'est de se faire dire que le Centre Bell peut être plein, puis qu'ailleurs, on met des restrictions. C'est dur pour le monde de comprendre la logique derrière ça.
Ben, ça, vous avez raison. Quand les choses sont très différentes d'une place à l'autre, on se dit, attends, pourquoi c'est si différent à un endroit et à un autre? Et ça, évidemment, je pense que, bon, la juridiction provinciale fait que, évidemment, chaque gouvernement provincial peut décider de comment il va laisser sa population fonctionner, limiter l'accès à telle ou telle activité. Bon, est-ce que l'analyse qui est faite en Ontario est celle qui devrait être faite partout au Canada, puis éventuellement en Amérique du Nord, c'est possible. Mais je pense que clairement, l'Ontario, actuellement, là, leur cas d'Omicron monte en flèche. Puis au Québec, il n'y a pas à douter, là, l'Omicron, il est déjà ici. À quel niveau il est rendu, on est en train d'essayer de le savoir cette semaine là, en faisant là, un criblage complet sur tous les spécimens qui ont été ramassés durant une seule journée. Et on devrait avoir ces résultats-là probablement d'ici la fin de la semaine là, ou au début de la semaine prochaine. Mais on en a de l'Omicron. La seule chose, c'est qu'on n'est pas encore sûr de quel niveau. Mais à partir du moment où l'Omicron a pris pied, partout où est-ce qu'il a pris pied, là, ce qu'on voit, c'est qu'il augmente à la vitesse, là, une vitesse fulgurante. Là.
Mais là, si je poursuis votre logique, si le variant se propage à une vitesse éclair, puis qu'il a commencé à se manifester au Québec, ça veut dire qu'il va se propager au Québec à une vitesse éclair, puis ça veut dire que ça prend des mesures, j'imagine, un peu plus sévères que ce qu'on a actuellement, puis qu'on applique dans d'autres provinces.
Ben, en fait, c'est certain que le nombre de cas qui augmentait déjà juste avec le variant Delta, avec l'arrivée de l'Omicron, cette vitesse-là va augmenter elle aussi. Alors, comment le gouvernement va décider de faire des règles additionnelles là pour gérer ce qui se passe. Évidemment, le point qui est crucial, c'est quelle est la capacité hospitalière et quelle est la montée des cas qui vont être hospitalisés avec l'Omicron. Le problème, c'est que, encore une fois, si le nombre de cas se multiplie très, très rapidement, ben presque immanquablement, on va voir le nombre de cas hospitalisés augmenter et là, ben c'est certain que là, il va falloir mettre des règles. Là.
Parfait. Merci, Dr. Dessert.
Fait plaisir.
Au revoir, Dr. Gaston Dessert, qui est de l'Institut national de santé publique du Québec.
L'essentiel de Paul Arcand.